Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Radio Classique.
Pendant des années, l'abbé Pierre a été la personnalité préférée des Français et c'est lui dont nous allons parler aujourd'hui, cet abbé Pierre qui a incarné pendant tant d'années, pour des générations, qui a incarné la notion de générosité avant, disons-le, d'être aussi au centre d'une véritable polémique puisqu'il avait défendu Roger Garaudy, le philosophe, sociologue, ancien communiste, ancien catholique, devenu musulman, Roger Garaudy, qui avait eu des propos négationnistes sur la fin de sa vie, et on a vu l'abbé Pierre le soutenir. Évidemment, ça a rendu le personnage bizarrement sulfureux. Alors, quand je dis sulfureux, attention au terme qu'on emploie, ça l'a rendu en tout cas controversé, mon cher Gérald.
Oui, bonjour Franck. C'est une période un peu compliqué, on va dire, hein, pour l'abbé Pierre. C'est surprenant même surtout, mais on va quand même parler aujourd'hui de deux personnages un peu exceptionnels. J'allais dire, puisqu'on a traité dans l'épisode précédent Che Guevara et Fidel Castro, oui, deux révolutionnaires, sans aucun doute, on va parler aujourd'hui de deux autres révolutionnaires à leur façon.
Mais des révolutionnaires français cette fois.
Français, et puis pas tout à fait du même type, on va dire non violent, hein, ça c'est sûr. L'abbé Pierre d'un côté et Coluche.
Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Kersanti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. whoz.com.
Comme il arrive souvent des grandes consciences qui se mettent entièrement au service des autres, c'est dans une famille tout à fait cossue qu'est née Marie-Joseph-Henri Grouet. C'était son véritable nom, celui qui va ensuite devenir célèbre pour les Français sous son nom de résistance, c'est-à-dire l'abbé Pierre. Marie-Joseph-Henri Grouet, il était né à Lyon, dans une famille de négociants en soi, mais une famille vraiment très catholique, avec une conscience sociale très développée. On le voit tout petit, il a 5-6 ans, il accompagne son père le dimanche matin pour secourir les mendiants, les sans-abri de l'époque. Et évidemment, tout ça a contribué, avec sans doute aussi son éducation chez les jésuites, avec son passage très important pour lui chez les scouts. Tout ça va constituer le socle, va constituer la base d'une espèce de conscience, de soutien aux plus démunis. Il aura son coup de foudre avec Dieu, c'est ainsi qu'il parle. À l'âge de 16 ans, on est en 1928, c'est un pèlerinage à Rome. Et dès ce moment-là, hein, il a 16 ans et demi, il veut entrer chez les franciscains. Mais il est trop jeune, bien entendu, il va falloir attendre un petit peu. Il fait sa profession de religieuse chez les capucins en 1931 et il prononcera ses vœux. Il devient frère Philippe. En 32, il finit son noviciat et il entre au couvent des capucins de Crêt. On est dans la Drôme à ce moment-là. Et puis, à la fin des années 30, en 1937, frère Philippe sera ordonné diacre par l'évêque de Valence et on le verra ensuite devenir prêtre en août 1938. Il va quitter les Capucins parce que sa santé ne lui permet pas de supporter la règle, hein, qui est une règle extrêmement dure, disons les choses. Alors, arrive la Seconde Guerre mondiale, on le voit d'abord comme sous-officier dans un régiment du train des équipages, sauf qu'il est tellement malade qu'en fait il va passer toute la drôle de guerre à l'hôpital, et puis ensuite il deviendra aumônier de l'hôpital de Lamur. Lamur, c'est très joli d'ailleurs,
très joli.
Dans l'Isère. Et ensuite, il s'occupera de l'orphelinat de la Côte-Saint-Anne André. Or, on le voit à ce moment-là mener un certain nombre d'actions. On nous dit qu'il a recueilli des enfants juifs dont les familles avaient été arrêtées au moment des rafles contre les juifs étrangers. C'était en août 1942. On nous dit, parce que alors là, il y a eu de très nombreuses polémiques sur cette partie-là de sa vie, il n'empêche qu'il a fait, qu'on le veuille ou non, des actes de résistance tout à fait signalés. Et notamment, il est celui, alors c'est un peu anecdotique, mais direz-vous, mais c'est pas entièrement inintéressant tout de même, il est celui qui a fait passer le plus jeune frère du général de Gaulle en Suisse, Jacques de Gaulle. Alors, on le verra, c'est là qu'il devient l'abbé Pierre quand il est dans la clandestinité vers la fin de la guerre. En 44, d'ailleurs, il est arrêté par les Allemands à Cambo-les-Bains, chez Edmond Rostand, là-bas, dans les Pyrénées. Il sera relâché, il arrivera comme ça à passer en Espagne, et puis de Gibraltar, il rejoindra de Gaulle à Alger. On comprend que dans l'après-guerre, il devienne un député gaulliste. Il va être député MRP. Ça paraît, on a peut-être oublié cet aspect-là. Mais c'est pas négligeable, bien entendu. Il se voulait à l'époque ni capitaliste, ni collectiviste. C'est ce qui lui plaisait dans le MRP. Sauf que la vérité, c'est que lui était très attiré par les mouvements qu'on pourrait appeler fédéralistes. Le mondialisme avant l'heure. D'ailleurs, on parlait de mondialiste. Avec Albert Camus et André Gide, en 1948, il va fonder un comité de soutien à Gary Davis, qui était le fondateur du mouvement mondialiste, les citoyens du monde. On peut pas, dès lors, étonné tellement qu'ils finissent par rompre à l'occasion d'une affaire un peu compliquée. Il va rompre avec le MRP en 1950 et c'est 4 années plus tard, alors qu'il vient de fonder Emmaüs. Il a fondé Emmaüs en 1949, d'après le nom du village biblique, d'Emmaüs, bien entendu. Il a fondé ce mouvement, cette association, cette organisation de lutte contre l'exclusion, qui va d'abord être présente en France, mais ensuite s'étendre à l'ensemble de la planète. Il fonde Emmaüs en 1949 et il y a un moment qui a rendu ce jeune abbé Pierre à l'époque, parce qu'il était encore tout jeune, ce qui l'a rendu très célèbre, c'est évidemment le grand appel, l'appel de l'abbé Pierre sur les ondes de Radio Luxembourg. C'était le 1er février 1954. Vous avez peut-être vu le film Hiver 54 qui raconte cette incroyable aventure et cette capacité qu'il a eue à mobiliser littéralement les Français. Alors, il a été à l'origine du développement de ce mouvement Emmaüs, même s'il a fini par prendre quelques distances. C'est en 63 qu'il a ce fameux accident, qui l'a encore a fait beaucoup parler. C'était dans le Rio de la Plata, en Argentine. On a cru pendant quelques jours qu'il était mort, carrément. Mort, en fait. Oui, ça a été vraiment assez incroyable. Et puis, en 1985, il va regrouper toutes les fondations Emmaüs dans une grande association, l'association Emmaüs France. C'est dans ces années 80-90 que l'abbé Pierre est devenu une sorte de conscience et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de ses prises de position et notamment ce soutien à Garaudy a fait scandale, disons les choses, au milieu des années 1990. L'abbé Pierre est mort le 22 janvier 2007. J'ai peut-être été un peu long, pardon, mais il fallait évoquer ces différents aspects d'une personnalité très riche, Gérald.
Il y a tellement de choses à dire sur l'abbé Pierre. C'était une personnalité riche, effectivement. Alors, je disais en préambule, quand je préparais l'épisode que nous déroulons ce matin, m'est venu inconsciemment, je fais une sorte de parallèle, on va dire, avec Che Guevara. Alors, c'est pas banal. Mais finalement, d'ailleurs, il y a une photo de l'abbé Pierre quand il est en uniforme, qui, c'est pas exactement la même photo que la fameuse photo de Korda de Che Guevara, mais il y a des similitudes. Et en fait, alors c'est sans doute parce qu'on vient de tourner l'épisode et qu'il est encore frais dans notre mémoire, mais il y a un point, même si sur le papier tout différencie les deux hommes, il y a un point qui les relie, c'est le combat. Alors si le guerriero héroïco argentin a été très tôt capté par le combat, il y a un esprit de combat, c'est l'idée d'une volonté de venir en aide au peuple opprimé, alors opprimé par l'impérialisme américain, c'est ce que disait Che Guevara, et les débordements du capitalisme, l'abbé Pierre, il a bâti une partie de sa vie sous la forme d'un combat également. Alors pas le même type de combat, pas violent, mais quand même, combat quand même.
Ah oui,
alors
oui.
Avec le Che, on était sans doute dans une révolution par les armes pour servir des idéaux. Avec l'abbé Pierre, nous sommes sans doute dans une révolution du cœur pour servir la justice et l'équité. Alors l'Humanité vient de publier un papier le 19 mai dernier, l'abbé Pierre, gros plan sur un combattant. Et on retrouve le titre. L'article met en avant le fameux film de Frédéric Tellier qui vient d'être présenté au Festival de Cannes, l'abbé Pierre, une vie de combat. On retrouve la notion de combat. Ils font également mention à une exposition à la Cité de l'économie. L'abbé Pierre, faire la guerre à la misère, on retrouve cette notion de guerre.
Battre, en fait.
Alors une citation de l'abbé Pierre, le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse, le contraire de la misère, c'est le partage. C'est intéressant. Alors quels étaient ces combats?
Ça restait quand même un prêtre dans l'âme, ne l'oublions pas.
Ah bah, c'était un homme de foi. Alors, quels étaient ses combats et que nous disent-ils de lui? C'est ça qu'on peut en tirer sur un plan du leadership. Alors d'abord, il faut dire que son combat était très concret. Comme tu l'as rappelé, Franck, l'abbé Pierre, c'est d'abord et avant tout un homme d'action. Alors, il y a eu d'abord, effectivement, ce coup de foudre avec Dieu, pèlerinage à Rome, il rentre dans les ordres, il fait vœu de pauvreté, il renonce à toute forme d'héritage. Alors, on parle en leadership d'actes de leadership qui sont essentiels. Dans le cas présent, c'est pas anecdotique. C'est ce qu'on appelle le leadership par l'exemple. Et là, il le démontre.
C'est-à-dire que là, ça va rendre plus difficile les critiques sur son comportement dans la vie à partir du moment où lui-même a fait cette renonciation très, très précoce.
C'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire, il donne l'exemple, il dit, mais il donne l'exemple pas pour montrer l'exemple, c'est parce que c'était en lui, je pense, hein, il n'y avait pas de doute là-dessus. Alors ensuite, il y a son combat dans la résistance, tu l'as déjà évoqué, il crée des maquis, il les supervise. On dit effectivement qu'il a hébergé des enfants juifs et il a fait de très belles choses pendant cette guerre. Il va être d'ailleurs décoré. Puis à la fin de la guerre, rentre un nouveau combat. C'est ce fameux combat politique. Il va quand même être élu plusieurs fois sous la 4e République et il va commencer un combat pour les plus démunis, notamment pour qu'ils aient un logement décent. Alors c'est une citation intéressante sur la politique de l'abbé Pierre. Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant des chiffres. Ça en dit long sur ce qu'il pensait. Alors, toujours dans l'action, bah, il crée effectivement Emmaüs, et puis il y a ce fameux, cet engagement, cet appel qu'il fait sur Radio Luxembourg, qui va devenir RTL, bien sûr, plus tard, l'insurrection de la bonté. Lui, d'ailleurs, préférait parler de l'insurrection de la justice. On retrouve le mot que je prononçais tout à l'heure. Et comme tu le disais, bah, les leaders ont cette capacité à mobiliser, et ce sera le cas avec l'abbé Pierre, d'une façon assez exceptionnelle, parce que ce qu'il a, il a réussi à vraiment créer un mouvement avec des dons assez incroyables, et son action d'ailleurs, politique, va conduire plus tard à une loi qui est toujours en vigueur aujourd'hui, c'est une loi contre l'expulsion des locataires pendant la période hivernale. Alors, cela nous dit...
C'est pas négligeable, hein. Bah, j'imagine que parmi ceux qui nous écoutent, nombreux sont ceux qui ont été plus ou moins confrontés à cette loi. Elle est essentielle, elle fait vraiment partie, là, de la vie quotidienne des Français, et ça, c'est le travail de l'abbé Pierre.
Voilà, absolument, et cela nous dit beaucoup de sa personnalité. Il était, je crois, sans aucun doute guidé par la foi, bien entendu, des convictions puissantes. Il a jamais fléchi, il a mené ses combats, ses actions jusqu'à la fin de sa vie. Il y a un mot qu'on n'a pas utilisé jusqu'à maintenant, mais qui est très important en leadership. C'est même quelque chose qui fait toute la différence quand on veut motiver les autres et les entraîner. C'est la cohérence.
Oui. Une cohérence liée peut-être aussi, disons-le, au contexte. C'est-à-dire que nous n'avons jamais encore, depuis toutes ces émissions maintenant, nous n'avons jamais encore évoqué cet aspect qui me paraît absolument essentiel et qui, dans la biographie de l'abbé Pierre, est évidente, c'est que les actions que l'on peut mener, puisqu'il s'agit d'un homme d'action, elles sont quand même largement déterminées par le contexte environnant. Et il y a, chez l'abbé Pierre, la volonté de réagir à un certain nombre de situations. Il est évident que il a eu cet appel de Dieu, il a eu ce coup de foudre comme il dit pendant son voyage, enfin son pèlerinage à Rome, et que toute la première partie de sa vie est littéralement déterminée par cet engagement religieux. Mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il est dans le contexte de l'occupation, eh bien il réagit à cela et c'est ce qui va faire de lui d'abord un passeur, puis effectivement un organisateur de maquis finalement un compagnon de route de la résistance et du général de Gaulle. Ensuite, c'est le contexte de la reconstruction avec les privations. Faut pas oublier quand même qu'on avait des tickets de rationnement en France jusqu'à la fin de 47. Hein.
Ouais,
et c'est dans ce contexte-là qu'il va se dresser contre la misère et qu'il va vouloir, parce qu'il y a énormément de gens qui sont mal logés, qu'il va faire du logement le fondement même de son action.
De sa démarche.
Ensuite, lorsqu'il devient effectivement l'apôtre de la bonté et qu'on l'entend sur les ondes diverses ou lorsqu'il reçoit des journalistes, et c'est très fréquent dans les années 50 et 60, lorsqu'il va vouloir développer cette idée de partage, d'entraide et de bonté, et ce sera toute la philosophie d'Emmaüs, Emmaüs qui va essaimer à travers la planète entière, quand il va faire ça, c'est par réaction au matérialisme et à la déchristianisation forcenée, si je puis dire, de ces années 50.
À tout ce qui se passe, en fait.
À tout ce qui se passe. Et il réagira aussi, ne l'oublions pas, à la guerre froide et ce caractère internationaliste, fédéraliste, mondialiste de l'abbé Pierre, c'était sa réponse à lui, à ce qu'il considérait comme une partition de l'humanité totalement injuste et qui pouvait avoir des conséquences effroyables. Ça, le moins qu'on puisse dire, et qu'on en a eu d'ailleurs quelques preuves. Donc, tout ça, c'est une certaine, comment dirais-je, c'est une certaine philosophie, c'est une certaine éthique, mais ça s'inscrit incontestablement dans une réaction à un univers et à un environnement. L'abbé Pierre n'aurait pas eu la même vie s'il n'avait pas été installé, si je puis dire, dans cet environnement. Et ça, on ne l'avait jamais eu l'occasion de le dire tellement, je pense que c'est l'occasion de le faire.
C'est vrai, c'est vrai. Et je vais prendre un angle aussi qui va un peu compléter notre vue sur l'abbé Pierre, c'est l'influence du père. On a, dans les épisodes précédents, c'est le 20e aujourd'hui, on a vu que la mère, bien souvent, a une influence très forte sur les leaders, qu'ils soient hommes ou femmes, mais le père également, et on l'a vu que pour beaucoup des personnages qu'on a traités, le père a été extrêmement important. Alors, l'impact peut être positif, négatif, rarement neutre en réalité. Alors, premier épisode, on avait vu Alexandre le Grand, le grand Alexandre le Grand. On avait vu l'influence de sa mère, Olympias. Mais Philippe II de Macédoine, finalement, son père, a eu une influence colossale sur lui. Il lui a donné d'abord la meilleure éducation qui soit, avec le grand Aristote. Et puis, Alexandre le Grand a appris à devenir un conquérant aux côtés de son père. Alors après, on a vu, par exemple, Cléopâtre, qui a été influencé par son père. Je pense pour redonner à l'Égypte toute sa grandeur. On a vu Churchill et son père intraitable, Frédéric II de Prusse, et on en parle à peine, le roi Sergent, qui était quasiment un tyran. La liste est longue. Alors, dans le cas de notre jeune Henri Grouès, comme tu l'as rappelé, bah là, en fait, l'influence du père a été extrêmement positive, on peut le dire. Hein. Positive parce que dès l'âge de 6 ans, il accompagne effectivement son père tous les dimanches pour aller aider. Alors, il est son père est un catholique actif, hein, très
bien
actif,
sûr, oui.
Pour s'occuper des sans-abri et des.
C'est très lyonnais cette histoire.
Très finalement. Lyonnais, puisque il va sur le quai Rambaud pour s'occuper des sans-abri, des mendiants. À 6 ans, il découvre donc en fait la solidarité. C'est un point extrêmement important pour un leader pour influencer les autres. À 12 ans. Il accompagne à nouveau son père à la confrérie séculaire des hospitaliers veilleurs, dont il est membre, son père est membre, et où les dimanches, les bourgeois, on va dire, où on va les appeler les familles aisées, se transforment en coiffeurs barbiers. C'est-à-dire que ben, c'est ce que va faire son père. Il va s'occuper des plus démunis, il va couper les cheveux, tailler la barbe, avant d'offrir des repas. Évidemment, pour le jeune enfant, puis le jeune adolescent qu'il est, ça va le marquer définitivement. Il réalise en fait que le véritable bonheur et de tendre la main aux autres, à ceux qui n'ont rien ou qui sont dans le manque. Alors tu parlais tout à l'heure de cette fameuse liste qui publiait les personnalités préférées des Français. Alors il a été pendant de très nombreuses années le personnage préféré des Français.
Oui.
Avant d'être en 2000, et on sait pourquoi, devancé par Zinedine Zidane. Alors, on sait pourquoi, parce que c'est en 2000. Donc 98 la Coupe du Monde, 2000 la Coupe des Pays, nations européennes. Et lors de cette rencontre, ça c'est assez drôle, l'abbé Pierre lui dit « Sers-toi de ta notoriété pour t'occuper des autres, ta petite personne, on s'en fiche. »
Donc, ouais, mais c'est un paradoxe, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que la petite personne de l'abbé Pierre, si dévouée, si ouvert et offert soit-il,
hein,
c'est un homme
occupé.
D'abnégation, mais sa petite personne, il s'en est quand même beaucoup occupé. Il était un incroyable publicitaire, et je crois qu'il tenait beaucoup à sa notoriété,
et
en
à
vérité.
Son image.
Et à son image. Oui.
Je pense que d'ailleurs, le fait qu'il ait été, que Zinedine Zidane lui soit passé devant, je pense que
ça n'a pas dû lui plaire.
Ça n'a pas dû lui plaire. Mais en tout cas, c'est pas pour rien que Pierre Bourdieu, le philosophe que nous connaissons, dira son admiration pour l'abbé Pierre, qu'il qualifie d'infatigable défenseur des pauvres. Alors, il faut savoir que l'abbé Pierre était influencé inspiré tout au moins par saint François d'Assise, au point que c'est devenu sa référence, son modèle, son style. Il va même le copier sur beaucoup de choses, mais en fait le véritable inspirateur de la vie de l'abbé Pierre, c'est indiscutablement, comme je le disais au début, son père, parce qu'il lui a transmis des valeurs qu'on va dire inestimables, la générosité, la bienveillance, le don de soi, des valeurs qui vont finalement inspirer toutes ses actions et des citations tout au long de sa vie. Une citation supplémentaire, « Vivre, c'est apprendre à aimer ».
Dans les années 1980, il y a une autre personnalité qui va devenir aux yeux de la population française l'incarnation de cette aide aux pauvres, aux démunis. C'était évidemment Coluche, l'humoriste Coluche qui crée en 1985 l'association des Restos du Cœur. Alors l'idée de Coluche c'était tout simple, il s'était rendu compte qu'il y avait énormément de gaspillage. Du gaspillage dans la grande distribution, dans les supermarchés, mais du gaspillage aussi dans un certain nombre de restaurants, etc. Et son idée, c'était de récupérer tout ce qui n'était pas vendu et tout ce qui était aux limites de la péremption et qui risquait donc de finir tout simplement à la poubelle, de récupérer tout ça pour le distribuer aux personnes démunies, à tous ceux qui n'avaient pas de quoi manger. Et Coluche, alors je dis Coluche de son vrai nom, Michel Colucci, avait connu ça, lui. Il savait ce que ça pouvait être que cette pauvreté, que cette difficulté. Il avait vécu une jeunesse assez difficile, on peut le dire. Et d'ailleurs, il avait fait de tout cela un peu son miel. Il en avait fait son personnage comique. Alors le personnage comique en question, lui, était né juste au moment de la fin de la guerre. Il était né en octobre 44, Michel Colucci. Et c'est en 1970 qu'il va apparaître sur la scène, si je puis dire, qu'il crée ce personnage de Coluche. Il a donc 26 ans à ce moment-là. Il a travaillé beaucoup avec Romain Bouteille et avec la troupe du Splendide. Ce qui veut dire qu'évidemment...
C'est là que ça va démarrer.
Il est au milieu d'une troupe qui connaît beaucoup de célébrités, ce Splendide qui va d'ailleurs se renouveler sur deux générations. Enfin bon, il est très souvent au Café de la Gare. Ça a été ça, le Café de la Gare. Pour ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être qui ont connu cette période extraordinaire, cette petite salle du 4e arrondissement.
Magnifique.
Qui est un vrai creuset. Enfin,
c'est un endroit, quoi.
Ah oui, c'est une pépinière à très grand talent. Donc, il va jouer au cinéma, bien sûr. On se rappelle notamment son interprétation du fils de ce mania de l'édition gastronomique, le fils de Louis de Funès dans L'aile ou la cuisse, etc. Il est encore dans des rôles assez légers, et puis il ira vers des rôles de plus en plus dramatiques, vous le savez, mais simultanément et surtout, il est ce personnage à salopette, à nez rouge, avec les cheveux bouclés, avec cette gouaille extrêmement populaire, avec cette grossièreté assumée, le premier grand humoriste français à assumer totalement la grossièreté, pas la vulgarité, précisait-il toujours. Pour lui, il y avait une très grosse différence. En 74, avec le célèbre sketch du Schmilblick, il devient une vraie grande star. Et il sera star jusqu'à la fin de sa vie. Alors, la fin de sa vie, là aussi, décidément, il y a une grande interrogation, puisque les circonstances de la mort de Michel Colucci, le 19 juin 1986, sont extrêmement... On va rester prudent, mais on va dire qu'elles sont extrêmement douteuses en tout cas, et que ce qui passe pour un simple accident de moto n'est peut-être pas tout à fait ça. Il faut dire qu'il dérangeait depuis longtemps les institutions, Coluche, puisqu'il s'était présenté à la présidentielle en 81 et qu'il comptait bien remettre ça en 88, et cette fois il n'avait pas l'intention d'abandonner, et il avait l'intention d'être très sérieux dans l'engagement qui devenait le sien.
Alors à la question, parce que c'était un personnage, avec lui en fait ce qui résume bien c'est la force de l'humour quoi en fait.
Ah oui.
À une question qu'on lui pose, on lui dit mais vous riez de tout, alors je cite, c'était pas une citation mais c'est un extrait d'interview, « Si tout me fait rire, je me suis dit voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va décider qu'on pleure de tout? Est-ce qu'on va décider qu'on rit de tout? Ou est-ce qu'on va décider qu'on se fout de tout? Alors, comme j'aimais pas la solution de se foutre de tout, ni de pleurer de tout, parce que c'est très crevant, alors j'ai décidé de rire de tout.
Ouais. C'était un rire qui était parfois un peu un rire triste, il faut le dire.
C'était un rire triste, mélancolique, et en tout cas ce rire lui permettait, et son accoutrement, son nez rouge, etc., lui permettait finalement de dire des vérités que personne ne pouvait, ce que personne pouvait faire en fait. Alors on connaît tous, on a tous en tête cette verve coluchienne, un humour qui est totalement décapant. Pour un leader, parce que c'est un leader, il a beaucoup influencé,
on peut le dire, oui.
Dans toute sa vie, il y a une inventivité. C'est un style d'ailleurs qui plaisait pas beaucoup aux intellectuels parisiens, notamment, qu'ils trouvaient vulgaire, comme tu disais.
Il n'y a pas que les intellectuels, il y a toute une très grosse partie de la population qui aujourd'hui respecte et reconnaît Coluche, mais qui à l'époque le détestait pour cette grossièreté, justement.
Bah, il bousculait.
Ouais, ouais.
Alors, on a tous en tête de l'histoire d'un mec, vous savez, c'est celui qui se trouve sur le pont de l'Alma et qui a marqué tous les esprits à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Au CRS arabe, ça c'est intéressant, parce qu'en créant ce personnage, il s'autorise à dire des vérités à tout le monde et à nous faire prendre conscience de choses. Et en passant évidemment par Si j'ai bien tout lu Freud, qui est un sketch absolument remarquable, Coluche avait ce talent de passer des messages puissants, de nous faire réfléchir. Alors en réalité, n'utilisait-il pas l'humour pour bouger les lignes? Bien sûr que si. N'était-il pas un politique dans l'âme? Bien sûr que si. Bien avant son élection présidentielle d'ailleurs. N'était-il pas un révolutionnaire, puisque je parlais de révolution? Bah, il parle beaucoup de révolution sociale. Alors si on poursuit sur ce thème, Le Che, dont on a parlé au début, était donc un révolutionnaire par les armes pour servir des idéaux. Fidel Castro, pour moi, était un révolutionnaire pour gagner le pouvoir. C'est ça qui l'intéressait, c'est gagner le pouvoir. L'abbé Pierre était un révolutionnaire du cœur pour combattre l'injustice et la misère. Et Coluche, finalement, était un révolutionnaire par l'humour pour combattre des causes similaires à celles de l'abbé Pierre. Alors l'humour est évidemment une arme colossal pour un leader, hein, tout type de leader d'ailleurs, hein, parce que ça permet de bousculer, de changer l'ordre établi, ça permet de faire des choses qu'on ne ferait pas autrement. Oui. C'est d'une grande efficacité. Et si j'ai utilisé le terme de révolutionnaire, j'aurais pu, concernant Coluche, utiliser bien d'autres mots. J'aurais pu utiliser contestataire, j'aurais pu utiliser rebelle, réactionnaire, agitateur, parce qu'il était un peu tout ça, oui. C'est certain. Dans une de ses interventions, je me souviens de ça, il disait « Il y a une pyramide sociale avec un mec tout en haut, tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Quand on arrive tout en bas, on est vraiment dans la merde. » Et je pense que au fond, il avait ce côté un petit peu de la contestation en lui, une sorte d'insubordination. D'ailleurs, au fait, il a été pris dans des petits vols quand il était jeune, à l'armée, il a été mis en prison, justement pour insubordination. Il y a une sorte de caractère subversif en lui. Hein.
Et quand c'est le mot, je crois.
Bah oui, et quand on lit la définition de subversif, qui cherche à produire le renversement de l'ordre social ou politique.
Bien sûr.
C'est ça. En fait, c'est un homme qui refuse vraiment catégoriquement l'enfermement identitaire. Et un dernier point, parce que ça c'est quand même intéressant sur le plan du leadership, c'est qu'il savait utiliser sa sensibilité. Et il, c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'une autre façon, mais ça revient à ça. C'est ce qu'il va faire en acceptant le rôle de ce pompiste meurtri dans Ciao Pantin, où il change complètement son image. Et je termine sur une anecdote qui, moi, m'a beaucoup touché. Il discutait avec quelqu'un qui lui demandait, mais c'est quoi cette boîte de banania qui est en bas de l'escalier de son domicile? Une grande boîte de banania en fer. Et il lui dit, bah, ouvre. Et elle ouvre et elle voit des billets pliés en, des billets de 500 francs à l'époque, pliés en 4, et il dit, quand mes amis viennent me voir et qu'ils sont dans, ils ont besoin, plutôt que de me demander, ce qui est toujours gênant, ils se servent.
Ah, tout, très proche là de l'abbé Pierre.
Très proche de l'abbé Pierre.
Avec des origines sociales presque à l'opposé, et avec une sorte, comment pourrait-on dire, tu as dit subversion, on pourrait dire dérision également.
Beaucoup de dérision.
C'était le clown national, c'est un clown, vraiment. C'est un clown avec toutes les dimensions du personnage. C'est-à-dire que c'est un clown qui fait hurler de rire, qui provoque des éclats de rire.
Il était très fort. Hein,
et en même temps, c'est un clown qui, lorsqu'il se démaquille, est conscient de toute la misère du monde.
En fait, est-ce qu'on pourrait pas dire, Franck, que c'était un politique déguisé en clown?
Oui, oui, oui. Et un politique, alors quand on dit un politique, dans une mouvance qui est bien particulière, qui est celle de ces générations de l'après-guerre, et en cela, il est assez différent de l'abbé Pierre, c'est un boomer, comme diraient aujourd'hui les adolescents, c'est quelqu'un qui ne croyait plus à toutes les références sociales et à tout l'ordre établi. Finalement, ce qu'il a fait, ça a été de poser partout des mines sous les ponts, sous les passerelles et sous les monuments d'un ordre établi qui était celui de la société classique occidentale, française. Il avait, d'une certaine façon et de ce point de vue, peut-être 30 ans d'avance sur ce que nous voyons et ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est peut-être ce qui a fait de lui une sorte d'emblème, pour ne pas dire même d'icône. C'est un clown icône, à la fois subversif et plein de dérision que ce Coluche qui a miné, on peut dire, d'une certaine façon, une certaine société de l'intérieur, avec ce qu'il peut y avoir de profondément réjouissant dans ce caractère révolutionnaire, je reprends le terme que tu avais dit tout à l'heure, et ce qu'il peut y avoir aussi parfois d'inquiétant pour l'ordre social et l'ordre établi, peut-être, ça on ne le saura jamais, ou en tout cas pour l'instant on ne le sait pas, peut-être l'a-t-il payé de sa vie, hein, c'est possible.
Oui, parce que c'est des personnages qui bousculent. Alors c'est une bonne transition pour notre conclusion, parce que le thème d'aujourd'hui c'est un peu la générosité, et dans l'esprit des Français, eh ben l'abbé Pierre et Coluche l'a représenté, indiscutablement. D'un côté on a Emmaüs, de l'autre côté on a les Restos du Cœur, bien sûr. Mais quel est ce mécanisme qui permet de passer de deux personnages aimés des Français à un statut de mythe, puisque tu le citais à l'instant? Alors de nouveau, on a eu l'occasion d'en parler pour le Che, pour Alexandre le Grand, Cléopâtre, Charlemagne. Charlemagne était un maître dans le fait de se mettre en scène. Alors dans un texte tiré de Mythologie en 1957, Iconographie de l'abbé Pierre, le philosophe Roland Barthes nous parle du mythe existant autour de l'abbé Pierre. Mmh. Et il dit, je le cite, le mythe de l'abbé Pierre dispose d'un atout précieux, la tête de l'abbé. Et c'est une belle tête, ajoute-t-il, qui présente clairement tous les signes de l'apostolat. Alors c'est intéressant ce qu'il dit, parce que aujourd'hui, plus personne n'ose parler du look, du physique, pour dire que ça a une influence sur le leadership. Mais ça en a, bien sûr. On le sait, ça en a. Son regard, par exemple, dégageait notamment de la bonté, ce qui a eu évidemment une influence colossale sur les autres, ceux qui l'entouraient, ceux qui le suivaient. Alors, tu l'as dit aussi, rares sont les personnages historiques sans onde d'ombre. On a eu l'occasion de le voir, et l'abbé Pierre n'a pas échappé à la règle avec cette fameuse affaire Garaudy dont tu as parlé. Mais pour que le leadership opère au niveau des, ce qu'on appelait les suiveurs, les followers en américain, il faut qu'il y ait incarnation. Et là, l'image du grand barbu en soutane, en grosse pèlerine élimée, avec une canne de pèlerin, béret, des godillots, qui au passage ont été offerts par un sapeur-pompier, forge vite le statut qu'on va appeler du héros légendaire. C'est le juste. La coupe rasée, par exemple, illustre le franciscanisme qui, par répercussion, va traduire une
ordre mendiant.
Voilà, exactement, et va donner le sentiment de générosité. De la même façon, il y a une symbolique autour de la barbe, parce que ça nous fait penser aux missionnaires. On voit que le look et le physique, l'attitude, ne sont pas pour rien dans l'impact que l'on a pour les autres. Alors, pour sourire, on connaît la fameuse formule l'habit ne fait pas le moine. Pour l'épisode,
un peu quand même.
Pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est intéressant. Je vais citer le pape Grégoire IX au XIIIe siècle, parce que c'est intéressant. Il disait, ce n'est pas à l'habit qu'on reconnaît le moine, mais à l'observation de la règle et à la perfection de sa vie. Il faut ainsi faire la distinction entre l'être et le paraître. Alors je voudrais conclure sur notre période actuelle. C'est justement là que nous avons du mal en ce moment. Pourquoi? Ben parce que, alors bien sûr, dans le cas des deux personnages qu'on a traités aujourd'hui, ben il n'y a pas d'écart, on va dire, entre ce qui se dégage d'eux ou ce que l'on se figure en les observant, la générosité notamment, et ce qu'il en est réellement. Il n'y a pas d'écart. On a deux personnages qui sont très clairs. Il y a une véritable cohérence, si je reprends le mot de tout à l'heure. Mais pour autant, c'est loin d'être toujours le cas, et à l'ère des réseaux sociaux avec lesquels nous vivons, des chaînes d'information continue, d'internet, de la surconsommation, de maladies, je dirais presque, d'information, nous avons tendance à nous fier à ce que Grégoire IX appelait le paraître. Or, en leadership, la leçon est simple, il ne faut jamais se fier aux apparences.
Quoique.